Et dans What's Up Doc ce matin, on va s'intéresser à une pathologie, à une maladie, et on verra avec notre invité si on peut la qualifier comme telle. On va parler du syndrome de stress post-traumatique, et pour ce faire, nous sommes en ligne avec Evelyne Joss, elle est psychotraumatologue. Evelyne Joss, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aussi matinale, Evelyne Joss. Alors, je le disais, est-ce que le syndrome de stress post-traumatique, on peut le qualifier de maladie?
Dans un sens, oui, disons, c'est une pathologie. Quelqu'un qui se casse la jambe, on peut considérer que c'est une pathologie, même si effectivement, on ne peut pas parler de trouble de la personnalité. Hein, c'est pas une dépression, ce n'est pas un trouble obsessionnel compulsif, c'est quelque chose de différent. C'est, je dirais, une sorte de fracture qu'on vit par rapport à des événements de la vie.
Mais justement, je voulais y venir et le but de cette chronique, c'est évidemment toujours d'être assez académique et en même temps très didactique. Alors, le syndrome de stress post-traumatique, ce n'est pas un hasard d'avoir choisi, je dirais, comme vous le disiez, ces symptômes. Aujourd'hui, puisqu'on le sait, le monde est en guerre et Israël contre le Hamas, l'Ukraine et la Russie, etc. On parle beaucoup de syndrome de stress post-traumatique. Alors, en quelques mots, comment peut-on définir cela, Evelyne?
Alors, c'est un ensemble de différents symptômes. On a d'abord les symptômes de réviviscence, donc c'est tous les symptômes par lesquels le traumatisme se rappelle à la personne, par exemple dans ses cauchemars, par exemple des images intrusives, c'est-à-dire elle ne veut pas du tout penser à ces images horribles, mais elles s'imposent dans son esprit, des ruminations mentales où on pense tout le temps à ce qui s'est passé, comment ça aurait pu se passer autrement, etc. Donc ça, c'est un ensemble de symptômes. Un autre, ce sont les conduites d'évitement, c'est-à-dire que les personnes vont éviter tout ce qui leur rappelle le traumatisme. Donc ça peut être évidemment des lieux, mais ça peut être aussi des conversations. Et ça peut aller même très loin, ça peut aller jusqu'à éviter des sensations physiques. Par exemple, on a eu le cœur qui battait très vite à ce moment-là, eh bien, on va éviter d'avoir le cœur qui bat très vite. Donc, on va éviter, par exemple, certaines activités qui peuvent donner ça. Et là, une troisième catégorie de symptômes, c'est ce qu'on appelle l'activation neurovégétative persistante. On peut considérer que les êtres humains, on a un frein et un accélérateur. Hein, donc, quand on est devant un gros ours, eh bien, on va appuyer très fort sur l'accélérateur pour fuir ou pour combattre. Et quand on se relaxe, quand on se repose, on peut dire qu'on appuie sur le frein. Eh bien, cette activation neurovégétative persistante, c'est comme si même quand on est enfin en sécurité, eh bien, on continue à appuyer sur l'accélérateur, ce qui peut donner des troubles du sommeil, des sursauts au moindre bruit, des personnes qui vont être, par exemple, aussi plus agressives parce qu'on est plus sur les nerfs. Mmh. Et la dernière catégorie de symptômes, ce sont les émotions négatives persistantes et les pensées négatives persistantes, donc des émotions de tristesse, de colère, de sentiment d'impuissance. Et au niveau des pensées, on appelle ça les cognitions, c'est que le monde est dangereux, qu'on est définitivement abîmé, qu'on ne s'en sortira jamais, voilà, ce genre de troubles.
Mais
alors
justement,
ça, c'est ce qu'on appelle vraiment... Je vais juste dire ça, le syndrome de stress post-traumatique, mais malheureusement, il n'arrive jamais seul. Hein, c'est-à-dire qu'on a aussi des troubles associés, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles du comportement, comme par exemple des virages alcooliques, des conduites dangereuses, des comportements agressifs, auto-agressifs, donc des gens qui peuvent avoir des conduites dangereuses pour eux-mêmes, des automutilations ou agressives par rapport à autrui. Donc, c'est complexe parce que c'est un ensemble de symptômes très variés.
Alors, beaucoup de gens associent le syndrome de stress, j'y arriverai, post-traumatique à des périodes de guerre ou à des événements de guerre. Est-ce que c'est toujours le cas et ce n'est que dans ces... ou de tremblements de terre, je parle de grandes catastrophes. Parce que finalement, le traumatisme, c'est une notion très subjective en définitive. Est-ce qu'il y a une gradation, une hiérarchie dans les traumatismes qui amènent à ce syndrome ou bien quelque traumatisme que ce soit peut engendrer ce syndrome de stress post-traumatique?
Alors, effectivement, hein, donc un accident de voiture, un viol en temps de paix sont des événements qui vont aussi produire possiblement un syndrome de stress post-traumatique. Et c'est vrai que C'est assez subjectif, c'est-à-dire c'est pas toujours ce qu'on a vécu, mais c'est aussi parfois la façon dont ce qu'on en fait, quoi, la manière dont ça s'inscrit dans notre histoire. Donc il y a des facteurs individuels, il y a des facteurs liés à l'événement lui-même, et il y a des facteurs qui sont liés au milieu de récupération. Donc c'est clair que par rapport aux facteurs qui sont liés à l'événement, plus un événement est grave, et bon, ce qui s'est passé avec le Hamas, évidemment, c'est extrêmement grave. Et donc, ça dépasse la capacité de gestion de nombreuses personnes. Et donc, la plupart des personnes qui ont été là, bah, possiblement, elles vont souffrir d'un stress post-traumatique. Par rapport à un accident, par exemple, de voiture sans blessé, grave, c'est clair qu'on est dans des dimensions très différentes. Donc, il y a des facteurs qui sont liés à l'événement lui-même. Plus c'est grave, plus il y a des morts, plus c'est évidemment porteur de traumatisme. Des facteurs individuels, il y a des personnes qui ont subi dans leur enfance ce qu'on appelle les traumatismes complexes, sont des traumatismes répétés, des viols, des abus, de la négligence grave, de la violence physique. Ces personnes sont aussi possiblement plus fragiles, ou des personnes, notamment dans les contextes de conflit, qui ont déjà vécu des problématiques liées au conflit lui-même, donc des événements traumatiques liés au conflit lui-même, et donc ça va s'accumuler. Et alors des facteurs au milieu de récupération, c'est-à-dire qu'une personne qui a eu un accident de voiture et qui est ici, par exemple en Belgique, en temps de paix, bien sûr son entourage va être bouleversé par ce qu'elle a vécu, mais l'entourage, lui, va bien. Et donc les capacités de régulation émotionnelle de l'entourage sont meilleures que quand les personnes elles-mêmes sont traumatisées. Donc on a beau s'aimer beaucoup, si on est tous traumatisés par les mêmes événements, on va avoir beaucoup plus de difficultés
Bien sûr.
de se réguler. Donc ça veut dire que dans les contextes de guerre ou comme ce qui s'est passé maintenant en Israël ou ce qui se passe aussi en Ukraine, c'est que effectivement les personnes, on a des facteurs qui vont, disons, s'additionner pour provoquer plus de traumatisme que dans d'autres contextes, parce que au niveau des facteurs liés à l'événement lui-même, bien, on a des facteurs de gravité très importants. Et par rapport au milieu de récupération, bah, c'est clair que les personnes, elles sont souvent traumatisées déjà aussi, enfin, ou en tout cas, elles sont hautement stressées. Donc, on a plus de risques, effectivement, parce que les facteurs, le faisceau de facteurs s'accumule.
Bien, je voudrais revenir à ce qui nous préoccupe et ce qui occupe le devant de l'info depuis maintenant plus de 20 jours. Je voudrais revenir sur les massacres barbares perpétrés par le Hamas dans les kibboutzim en Israël et aussi de parler des soldats qui rentrent maintenant dans Gaza et qui vont rencontrer évidemment des moments et des images absolument difficiles. Est-ce que tout le monde est égal devant le syndrome post-traumatique? Je veux dire par là, est-ce que tous les gens qui ont vécu ces massacres horribles et barbares et indicibles d'une certaine façon dans les kibboutzim, est-ce qu'ils vont tous, selon vous, souffrir de syndrome de stress post-traumatique ou bien il y en a certains oui et d'autres pas? Et si c'est là la bonne réponse, comment se fait-il que certains en souffrent et d'autres non?
Alors bon, c'est évidemment par rapport aux civils qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, qui est absolument atroce. Comme je disais, je pense que ça va dépasser la capacité de gestion de beaucoup de personnes. Ce qu'on va peut-être observer, c'est que certaines personnes semblent aller bien parce qu'elles ont réagi, notamment au moment des faits. Elles ont peut-être essayé de se sauver, de sauver d'autres personnes. Et elles peuvent souffrir de ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire qu'elles ont agi et parfois elles peuvent commettre des actes héroïques parce qu'elles n'ont pas les émotions qu'elles devraient, entre guillemets, normalement éprouver dans ce type de situation. Ça ne veut pas dire que ces personnes vont être indemnes de traumatisme. Donc, elles peuvent sembler aller bien et les symptômes peuvent venir plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard. Donc, c'est très compliqué, juste après un événement, de dire qui va développer un syndrome et qui ne va pas développer de syndrome. Donc, par rapport à des facteurs individuels, c'est clair, comme je l'ai dit, si on a déjà vécu des traumas avant, si on est une femme, hein, ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais c'est dû aux hormones, hein. Il y a d'ailleurs des études qui sont menées aujourd'hui au Canada sur les hormones. En fait, pour le même événement, les femmes sont 2 fois plus susceptibles de développer un traumatisme psychique qu'un homme qui a vécu la même chose. Donc, c'est pas du tout sexiste ce que je dis, c'est
Mais
vraiment
non,
lié
c'est factuel.
à des hormones. Alors, par rapport aux soldats, Bien sûr, personne n'est à l'abri du traumatisme, hein.
Je
Ça, il faut le
parlais des
dire,
soldats parce
personne.
que j'ai l'impression, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais on parle de syndrome, enfin en tout cas moi j'en ai entendu parler de ce syndrome de stress post-traumatique après la guerre du Vietnam surtout. À la limite, c'est
Mais on
même
en parle
étonnant
en...
parce qu'on n'en parlait pas trop après la Shoah, en tout cas quand j'étais jeune, c'était pas quelque chose de courant dans le vocabulaire, mais depuis le retour des vétérans du Vietnam, eh bien c'est devenu presque, je dirais quelque chose d'usuel de parler de stress post-traumatique.
Oui, c'est d'ailleurs hallucinant par rapport à la Shoah. Donc, il a déjà fallu une dizaine d'années après la guerre pour qu'on commence à en parler. Donc, il y a quand même des gens qui ont parlé de ça. La plupart, c'était des psys qui étaient sortis d'ailleurs des camps. Et par exemple, si je prends les enfants cachés, il a fallu attendre 1990, hein, les années 90, pour que on commence à parler des traumatismes des enfants cachés. Donc c'est vrai qu'on parlait déjà de traumatismes dans d'autres guerres, hein, Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, mais plutôt sur les soldats et de façon très violente par rapport à eux, puisqu'on estimait que c'était une vulnérabilité individuelle, on estimait que c'était
Absolument.
parce qu'ils étaient fragiles. Et c'est vrai que les choses se sont débloquées après la guerre du Vietnam. Alors effectivement, les soldats, bon, ils vont être moins, enfin, on va avoir moins de soldats traumatisés que de civils, et heureusement, parce qu'ils ont une préparation. Hein, donc, si vous et moi, on est devant un incendie, est-ce qu'il y a un danger? Oui. Un pompier va aussi répondre oui, sinon il va passer son chemin. Donc, heureusement qu'il dit oui. Vous et moi, devant un incendie, on va, la deuxième évaluation, c'est est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à ça? Je pense que vous et moi, on va dire non. Le pompier va dire oui. Donc ça veut
Exact.
dire que ce qu'on appelle l'évaluation secondaire, j'ai quelqu'un qui est préparé, eh bien effectivement, ça va le protéger parce qu'il a des moyens. Donc les soldats, ils ont des moyens. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'ils peuvent pas être traumatisés. Et le problème, c'est effectivement les gens qui peuvent craquer sur le terrain même. Maintenant, évidemment, les gens sont accompagnés par des psychiatres et des psychologues, hein. C'est le cas pour l'armée israélienne.
Bien sûr.
Comme ben, je pense à peu près toutes les armées. Mais au retour, effectivement, on remarque, et c'est dans toutes les armées aussi, que beaucoup de personnes, quand elles reviennent, ne vont pas bien. Donc on peut avoir des personnes qui sont dans le repli sur elles-mêmes, avec des difficultés conjugales, des difficultés de couple, parfois aussi des manifestations violentes. Donc depuis la guerre du Vietnam, effectivement, on sait que la violence est une. Un signe aussi de trauma. Donc ces personnes, évidemment, on doit les empêcher de faire du mal, mais en même temps, il faut se rendre compte que c'est une souffrance psychique qui est à l'origine de ça, donc elles ont besoin
Bien
d'être
sûr.
aidées.
Est-ce que
Alors
tout
il y a
ça, ce
des
sont des... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais tout, parce que le temps nous est compté, évidemment. Est-ce que tout ça, ce sont des constats qu'on fait par la suite, ou bien il y a moyen, en fonction de ce que vous venez de nous expliquer, peut-être, en quelque sorte, et je mets plein de guillemets, de prévenir ce syndrome de stress post-traumatique, ou alors il n'y a vraiment rien à faire?
Alors oui, il y a plusieurs solutions. Déjà, il y a un programme national israélien qu'on appelle le protocole des 6C. Hein, c'est un protocole d'intervention psychologique d'urgence pour justement éviter que les soldats, hein, donc il y a des gens qui sont dans l'armée qui font ce protocole pour leurs collègues, pour éviter que ces personnes ne développent un trouble de stress post-traumatique. Il y a aussi un médicament qu'on appelle le propranolol. En Belgique, c'est l'Inderal, qui permet aussi d'éviter qu'un mauvais souvenir devienne un événement traumatique. Donc, bien sûr, les gens vont pas oublier, mais l'idée, c'est que ça n'inspire pas des symptômes par la suite, quoi. Que ce soit juste un mauvais souvenir, mais pas
D'accord.
un souvenir qui rend malade, j'ai envie de dire.
Bien. Vinjos, on pourrait en parler. C'est vrai que c'est vraiment un sujet très vaste. On pourrait en parler encore longtemps. Malheureusement, ben, le temps nous est compté, je vous l'ai dit. En tout cas, merci infiniment de nous avoir apporté un début d'éclairage sur ce phénomène. Je rappelle le syndrome de stress post-traumatique. Vous êtes personnellement impliqué, et vous étiez personnellement impliqué, puisqu'on vous a envoyé un petit peu aux quatre coins du monde dès lors qu'il y avait un tremblement de terre ou des catastrophes naturelles, ou des guerres, ou sur zone de guerre. Donc vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres. Et ma dernière question, mais oui ou non, est-ce que la psychotraumatologue que vous êtes est immunisée contre le syndrome de stress post-traumatique ou pas?
Non, personne ne l'est.
D'accord. Ben voilà. Mais c'est une conclusion comme quoi, eh bien, chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, quand il le peut. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce matin, Evelyne Joss, et à très
Merci
vite.
à vous.
Merci beaucoup.